97.3, on vous donne le juste.
Bon mercredi, mesdames et messieurs, Félix-Antoine Parent qui vous accompagne à l'émission L'heure juste, votre émission d'affaires publiques sur les ondes de CHGA-FM. Donc, j'apprécie beaucoup cette journée du mercredi où j'ai l'occasion avec vous d'approfondir certains sujets qui font l'actualité, qui ont fait l'actualité dans les derniers jours ou qui feront l'actualité prochainement. Bref, on essaie d'être vraiment en lien avec ce qui se passe dans notre monde, à nous, chez nous, ici dans la vallée de la Gatineau. Et un des éléments qui revient année après année, hein, c'est vraiment les défis que rencontre le Centre de services scolaires des Hauts-Bas de l'Outaouais à recruter du personnel légalement qualifié. On parle particulièrement ici du corps enseignant. C'est pas un défi qui est unique à la région. Il y a des efforts qui sont faits, qui sont mis en œuvre pour tenter de renverser la tendance. Malgré tout, on est un des centres de services scolaires à travers la province où on a le plus recours à ces main-d'œuvre non légalement qualifiées. Donc, je le disais, il y a des efforts qui sont mis, mais malgré tout, les défis persistent. Comment on peut plus globalement améliorer la profession, faire en sorte qu'il y a davantage d'étudiants qui graduent des universités? On en parle avec Mylène Leroux, elle est professeure titulaire en formation pratique au département des sciences de l'éducation et responsable au programme de bac en éducation pour l'Université du Québec en Outaouais. C'est une discussion qu'on a amorcée dans les dernières semaines. On a jasé entre autres avec la Fédération autonome de l'enseignement qui, elle, suggérait notamment de revoir la durée du bac en enseignement, de le faire passer peut-être de 4 à 3 ans. On verra ce que Mme Leroux en pense et quelle avenue elle privilégie pour augmenter le nombre de diplômés en enseignement. Et on a jasé la semaine dernière avec Marc-André Branchaud, l'un des nouveaux copropriétaires d'Ameublement Branchaud. La bannière s'appelle Branchaud, mais la société, c'est vraiment Ameublement Branchaud, puisque l'ancienne garde, je dirais, là, qui était auparavant propriétaire, demeure quand même propriétaire des édifices, la gestion immobilière, donc des magasins Branchaud, donc sont encore dans le portrait. Mais la société Ameublement Branchaud, donc, a été vendue des nouveaux actionnaires, 4 nouveaux actionnaires, 3 membres de la famille Branchaud et un nouveau venu. Nicolas Beaumont, donc on en jasera tout ça avec Marc-André Branchaud. Olivia Malenfant, elle est avocate dans un cabinet de Montréal qui a le mandat de mener à bien un recours collectif contre le diocèse de Mont-Laurier et Saint-Jérôme. Et on ratisse quand même assez large, on vise à indemniser donc les personnes victimes d'agressions sexuelles de la part d'un membre du clergé, d'un employé ou un bénévole laïque ou religieux du diocèse de Saint-Jérôme-Mont-Laurier. Et on parle entre le 1er janvier 1940 et le 1er juin 2022. On saura tout ce qu'il y a à savoir par rapport à ce recours collectif. Et en toute fin d'émission, Vincent Courteau, intervenant social au Centre d'amitié autochtone de Maniwaki, sera notre invité. On dresse un portrait de l'itinérance dans la vallée de la Gatineau. On a vendredi la nuit des sans-abri sur le territoire. On a une halte refuge qui a ouvert ses portes la semaine passée, donc je trouvais que c'était un bon moment pour en parler de ce portrait qui est changeant. On a une méconnaissance hein, de ce portrait de l'itinérance dans la vallée de la Gatineau. Il ressemble à quoi? Ben, on va en jaser avec Vincent Courteau. Mais d'entrée de jeu, on accueille Mylène Leroux, je le disais elle est professeure titulaire en formation pratique au département des sciences de l'éducation et responsable au programme de doctorat en éducation pour l'Université du Québec en Outaouais. Madame Leroux, bonjour.
Bonjour à vous, M. Parent.
Puis on en jasait hors ronde, vous et moi, là, c'est une profession, on a besoin de redorer d'entrée de jeu, je pense, l'image de la profession et ça va passer par nos élus, nos politiciens, faut redorer l'image, faut démontrer l'importance de cette profession-là.
Oui, redorer l'image, valoriser cette importante profession-là, puis offrir à l'ensemble des personnels scolaires les conditions qui leur permettent de réaliser adéquatement leur travail, qui ne posent pas d'entraves, qui leur permettent de s'épanouir aussi dans ce travail-là, parce que la façon dont le personnel scolaire va vivre sa profession, le bien-être qu'il va ressentir au travail, ben ça va aussi être en lien avec le bien-être des élèves. Donc, il faut vraiment avoir ces éléments-là en tête.
Et là, on se parle aujourd'hui parce qu'on a jasé récemment avec une représentante de la Fédération autonome de l'enseignement qui, on parlait de comment attirer davantage d'étudiants dans les universités pour devenir enseignants et bon, on parlait d'entrée de jeu, nous, c'était la rémunération. En fait, en ce moment, c'est la non-rémunération des stages, mais à quel point ça pourrait être bénéfique de rémunérer ces stages-là avec le coût de la vie et l'importance des stages. Hein? C'est un bac où il y a beaucoup de stages, vous le saviez mieux que moi.
Oui.
Fait que ça, c'est ressorti dans les discussions, puis je sais que Bernard Drinville, le ministre Drinville, en a parlé, a évoqué cette possibilité-là, mais il y a plus que ça. La FAE disait on pourrait revoir complètement le bac, le diminuer, revoir la durée ou enlever des cours qui sont peut-être moins pertinents au dire des finissants. Je voulais vous entendre là-dessus.
Oui, ben c'est sûr que moi, je vous dirais que la perspective rémunération des stages est peut-être une perspective plus intéressante parce que là, ça ferait en sorte qu'on conserverait la place des stages vraiment dans la formation. Puis c'est vraiment pour ça, en fait, hein, que le bac a été allongé. Donc, dans les années 90, il y a eu cette transition-là d'un bac 3 ans à un bac 4 ans. Puis une des raisons principales, c'était vraiment de pouvoir introduire un minimum de 700 heures de stage progressif à travers le programme, donc pour favoriser une articulation théorie-pratique, hein, une intégration des différentes formes de savoir et impliquer davantage les formateurs du terrain, les enseignants, les enseignantes qui accueillent nos stagiaires. Donc, moi, j'ai plus tendance à dire, ben, ce serait vers ce type de solution-là qu'il faudrait aller de rémunérer les stages parce que ça présente des enjeux, bien sûr, pour nos étudiantes, particulièrement parce que la population étudiante a changé. Donc, on a de plus en plus de personnes qui habitent en appartement, qui ont des familles. Donc, la réalité n'est plus la même et ces personnes-là vont avoir des besoins, des obligations financières, par exemple, familiales. Donc, ça pourrait permettre de faire en sorte que ces moments-là, ils ne se retrouvent pas sans salaire aucun. Donc, on pourrait mieux reconnaître cet aspect-là. Sur la diminution de la durée du baccalauréat, je dois vous dire, bien sûr, qu'il y a des évaluations périodiques des programmes, donc des améliorations qui sont apportées au fil des ans. Là. Donc, le bac n'est pas resté le même depuis les années 2000. Là. Ça a bougé beaucoup, l'ensemble des bacs. C'est évidemment dans les plans de façon continue de revoir les cours, de faire des évaluations auprès des gens qui sont diplômés ou qui sont en cours de formation pour voir est-ce qu'il y a des cours qui répondent plus aux besoins, est-ce qu'on peut les remplacer par d'autres, est-ce qu'il y a des choses qui manquent, qu'on devrait ajouter. Donc ça se fait de façon régulière. Mais si on pense à réduire, donc revenir par exemple, il y avait cet élément-là qui était proposé entre autres par le Conseil supérieur de l'éducation de faire de la quatrième année de baccalauréat un gros stage. Ben si on fait ça, ça veut dire qu'on prend, nous, au bac préscolaire primaire, on a 30 crédits qui sont associés à la formation pratique, les stages puis les cours pratiques qui les accompagnent. Ça veut dire qu'on prendrait tous ces 30 crédits-là puis on les concentrerait la dernière année parce qu'il faut laisser de la place pour les autres cours. Donc là, est-ce que c'est judicieux de faire ça? Je suis pas certaine parce qu'on a vraiment fait ce pas-là il y a 30 ans de se dire, ça convient pas de faire des apprentissages en silo. Il faut qu'il y ait une intégration des cours et des stages pour qu'on puisse avoir un meilleur développement de compétences.
Très intéressant. Et on veut pas non plus des enseignants qui sont moins bien outillés. On veut pas niveler vers le bas. Hein? Fait que, tu sais, de dire, oui, on va augmenter le nombre d'élèves dans les classes, mais ça serait quoi le bénéfice, le coût-bénéfice si on a plus de gens, mais moins bien qualifiés dans nos classes? C'est peut-être pas pour le mieux non plus.
Bien, c'est ça l'enjeu. Moi, j'entends des fois des personnes qui ont fait leur formation avant, justement, la transition du baccalauréat, par exemple, au moment où il y avait le certificat en pédagogie. Donc, ils ont un bac disciplinaire, ils ont fait un certificat en pédagogie, puis aujourd'hui, ils nous disent « Bien, je me sens très bien outillée pour enseigner. » Et je peux les croire, parce que ça fait 30 ans qu'ils enseignent.
Ouais, ils ont
accumulé de l'expérience, puis ils ont fait de la formation continue tout au long de ces 30 années-là. Mais aujourd'hui, alors que vous le décriviez en début d'entrevue, la profession s'est abondamment complexifiée. Ça, c'est vraiment documenté là, par les travaux en sociologie de l'éducation. On se rend compte que c'est beaucoup plus difficile. On a des nouvelles réalités, notamment en lien avec l'école inclusive, avec l'apport des technologies, hein, toute la question numérique, on n'avait pas ça il y a 30 ans. Là. À chaque fois, moi, que je lis des études en éducation ou moi-même mes propres travaux, souvent dans les conclusions, on va voir, il faut mieux former à tel ou tel aspect. Mm-hmm. Mais là, on dit toujours qu'il faut mieux former, qu'il faut mieux outiller. Puis il y a des insatisfactions actuellement sur le fait que même les gens formés ne se sentent pas suffisamment outillés. Puis je vous dirais que c'est généralisé à travers le monde que les nouveaux venus se disent pas suffisamment outillés. Donc, même si les formations sont très différentes, on se rend compte que la réalité du terrain puis les conditions sont pas nécessairement favorables. Donc là, si notre réponse est de dire, ben on va encore moins bien utiliser les gens, il y a quelque chose de
c'est pas judicieux. Non, c'est pas judicieux du tout. Fait que là, on en revient finalement à la proposition que Québec solidaire a fait il y a deux semaines, c'était de rémunérer le stage en enseignement. Ça, d'après vous, c'est le modèle qu'il faudrait vraiment étudier. Et en même temps, j'ai l'impression que le gouvernement s'est un peu commis, hein? Puis il y a certains de mes intervenants qui trouvaient ça un peu insultant de savoir qu'on rémunère justement un adulte, peu importe sa formation, par classe, hein, c'est ce qu'ils ont dit, un adulte par classe. Et quand on a quelqu'un qui est à toute fin pratique, formé avec tout ce qu'il y a dans son coffre à outils pour bien enseigner, ben lui, il est non rémunéré. Il y a comme un non-sens. J'ai l'impression que le gouvernement peut difficilement défendre le fait de ne pas rémunérer ces stages-là quand on accepte pas n'importe qui, je veux pas insulter personne, mais qu'on n'a pas de ils n'ont pas à répondre à des critères bien particuliers pour devenir responsable d'une classe.
Exactement. Donc, puis moi, je vous dirais, c'est la rémunération, pardon, de l'ensemble des stages. Donc, dès le premier stage en première année de baccalauréat, il devrait y avoir une forme de reconnaissance. Parce que les stages sont sur chaque année et ils augmentent de façon progressive en durée et en responsabilité. Donc, il devrait y avoir une reconnaissance associée à ces stages-là. Maintenant, il y a aussi d'autres initiatives là, qui se mettent en place. Donc, la plupart des universités ont à ce jour des stages 4 en situation d'emploi qui peuvent être offerts, mais à certaines conditions, il faut qu'il y ait, on peut pas regarder juste est-ce que c'est un bon étudiant, une bonne étudiante, il faut aussi voir c'est quoi les conditions de la tâche qu'on leur confie, donc s'assurer que ce soit une tâche qui est réaliste, puis voir aussi quel va être l'accompagnement, parce que c'est ça la grande différence entre une expérience professionnelle comme de la suppléance ou un contrat qu'on va avoir, puis un stage. La principale différence, c'est l'accompagnement qu'on va avoir par rapport à cette expérience professionnelle-là. Donc, si on fait des stages en emploi, mais qu'il n'y a finalement pas vraiment d'accompagnement qui est offert, puis c'est un des enjeux qu'on rencontre dans les situations qu'on a documentées jusqu'à maintenant, ben à ce moment-là, on n'est pas vraiment en train de contribuer comme on le pourrait à la formation des personnes. Donc, il y a des initiatives qui peuvent se développer en lien avec la formation. Je pense qu'il faut poursuivre nos efforts. Là, moi, ça fait 15 ans que je m'efforce de voir comment on peut améliorer l'articulation entre la théorie et la pratique, favoriser la collaboration, le partenariat entre les deux milieux de formation qui sont tous deux absolument essentiels et complémentaires. Donc, il faut poursuivre les efforts dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que ça va tout régler, là. Mais juste se dire on va diminuer la formation pour diplômer plus vite les gens, mais les envoyer alors qu'ils sont qualifiés de manière superficielle, mais ils ne sont pas suffisamment formés ou outillés, bien là, ça pose vraiment des enjeux.
Madame Leroux, vous êtes professeure titulaire en formation pratique au département des sciences de l'éducation et responsable au programme de doctorat pour l'Université du Québec en Outaouais. Je vous remercie du temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Bien hâte de voir, on va suivre ce dossier-là avec attention. Ici à la salle de nouvelles.
Oui, je l'espère. Merci beaucoup pour votre intérêt.
Très intéressant tout ça. Et on change complètement de registre hein, dans les prochaines minutes. C'est Marc-André Branchaud qui sera notre invité, nouveau copropriétaire d'Ameublement Branchaud, alors qu'il y a 4 nouveaux actionnaires qui sont propriétaires de cette bannière. On en reparle plus en détail dans un instant.